Donc je vais vous afficher les textes que je vais vous lire. Le premier texte, c'est la présentation de Jésus. Présentation de Jésus, l'incarnation de la parole, qu'on trouve dans Jean 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et bien, de ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, la vie, et la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Le deuxième passage se trouve dans Jean 1, toujours au verset 29 à 34. Jean 1, verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. On parle de Jean-Baptiste. Il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean-Baptiste, justement, rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Encore un peu plus loin dans Jean, et je m'arrête vraiment, je travaille, et j'ai lu beaucoup, je vais lire beaucoup de passages dans Jean, donc dans Jean 13, versets 31 à 34. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et le glorifiera bientôt. » Les petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et dernier passage est dans Jean 16, versets 12 à 15. C'est encore Jésus qui parle et qui dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Je fais une marche arrière. Mais quel est le rapport entre ces différents textes ce matin? On peut se demander.
tellement varié. Quel est le rapport entre ces différents textes lus ce matin?
Je vais faire durer le suspense et je vais essayer de le dévoiler petit à petit. L'évangile de Jean est un évangile différent de ceux de Luc, Matthieu et Marc. D'emblée, Jean annonce la couleur. Son évangile ne sera pas une simple copie des récits faits par les autres évangélistes. Pas de nativité dans le premier chapitre. Mais un discours que j'oserais appeler cosmique, qui place les origines de Jésus dans l'être même de Dieu, dont il est un membre indissociable. Le premier passage que j'ai lu ce matin, qui se trouve dans Jean, les versets 1 à 14, ça s'appelle le prologue. Ce prologue présente un portrait de Jésus, le Fils de Dieu. Les thèmes esquissés dans ce chapitre sont développés tout au long de l'évangile de Jean. Au verset 1, il est question de la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On ne peut pas s'y tromper. La parole, c'est Jésus. Sa nature divine, sa préexistence, son incarnation se explicitent dans ces versets. La parole est le reflet de la gloire de Dieu. L'expression de sa personne. Elle est créatrice et soutien de l'univers. La parole ne parle pas seulement, elle agit. Comme le dit le verset 9 du psaume 33, il est dit car il parle ou il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Au verset 4 de ce premier passage de Jean, il est question de la lumière et de la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie et la lumière ne vont pas l'un sans l'autre. S'ouvrir à la lumière, c'est recevoir la vie. Rester dans l'obscurité, c'est mourir. La lumière est venue pour éclairer tout être humain. Elle était méprisée par la plupart des hommes parce qu'elle révèle le mal et appelle à un changement. Ensuite, le deuxième passage que j'ai lu, dans Jean 1, versets 29 à 34. C'est Jean qui rend hommage au Baptiste, dont il fut lui-même disciple avant de s'attacher au Christ. Le verset 30 peut paraître mystérieux, car Jean-Baptiste parle d'un homme qui viendra après lui, tout en l'ayant précédé. J'ai beau me gratter la tête, je comprends rien du tout. Un homme qui viendra après lui, tout en l'ayant précédé. Qui est partout, avant, pendant, après, à part Dieu lui-même. Cette révélation était indispensable pour identifier clairement le Messie. Dès lors, Jean le Baptiste n'hésite pas à affirmer l'origine divine de Jésus. C'est le Fils de Dieu. Rien ne remplace une rencontre personnelle avec Jésus. Si nous le recherchons, il nous invitera aussi dans son intimité. Alors nous serons capables d'être ses témoins. Je vous laisse ce verset 17 d'Éphésiens 1 qui dit « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Le troisième passage que j'ai lu se trouve dans Jean 13, versets 31 à 34. Donc là, ce n'est pas difficile, c'est l'amour. Le départ, et ce qui est troublant, c'est que c'est le départ de Judas qui marque une étape décisive dans le processus qui va conduire à l'arrestation de Jésus. Les événements vont bientôt se basculer dans le drame. Jésus annonce son départ. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, c'est combien ses disciples auront eux aussi besoin de trouver des ressources morales et spirituelles nécessaires pour survivre à la tempête qui s'annonce. Alors il leur donne un commandement nouveau. Il les appelle à l'amour fraternel. L'amour pour Jésus est celui les uns pour les autres caractérise la première Église. Cette dynamique du royaume exerce une force d'attraction irrésistible pour de nombreux croyants. Pour de nombreuses conversions. Nous sommes en plein dans l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attente de retour. Il est inconditionnel, accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il souhaite son bien-être, son profit personnel. Il a de la compassion pour l'autre et il l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. Aimer l'autre, c'est cultiver des sentiments de bienveillance et de compassion à son égard. Reconnaître ses blessures à l'origine d'agissements déviants. Cultiver le non-jugement. Aimer l'autre, c'est respecter nos différences et accepter que nous sommes tous en chemin, avec des degrés de maturité et d'évolution propres à chacun. Aimer l'autre, c'est écarter tout a priori son égard, garder le cœur ouvert et reconnaître le Christ qui habite au-delà des ombres qui peuvent l'animer. C'est avoir un regard altruiste qui l'aidera à grandir. Sommes-nous capables de faire cela avec nos propres ressources humaines? Moi, je l'avoue, j'en suis pas capable. Personnellement, j'en suis pas capable. Si ça s'arrête là, c'est difficile pour moi. Mais j'ai lu un quatrième passage, qui se trouve en Jean 16, versets 12 à 15. Comme les disciples, nous sommes bien faillis. Nous ne pouvons pas tout comprendre, tout supporter à la fois. Nous ne pouvons pas aimer de cette façon qui était décrite juste avant, cette façon agapée. La parole nous enseigne, mais comment pourrons-nous la comprendre? Dieu s'est révélé à travers le Fils, mais comment pouvons-nous affirmer l'origine divine de Jésus et en témoigner? Ben voici les différents. Voici le rapport justement entre les différents textes vus ce matin. Tout s'éclaire avec ce chapitre 16, des versets 12 à 15. La colombe, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Une des fonctions du Saint-Esprit en nous, c'est de nous faire progresser en nous enseignant la vérité peu à peu. Quel encouragement à la persévérance pour découvrir tout ce que Dieu veut encore nous révéler. L'Esprit de vérité ne nous transmet pas autre chose que ce qu'il a entendu. Tout ce qu'il révèle est en adéquation avec l'ensemble de la parole de Dieu. Son but, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'amour, qui ne doit pas être rechercher notre propre gloire. Son but à l'esprit n'est pas de chercher sa propre gloire, mais son but, c'est de révéler la gloire du Fils. Le verset 15 de Jean 16 dit « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » C'est une clé pour saisir l'unité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà le rapport entre les différents textes. C'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et est résumé dans ces quelques mots. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Comme on l'a vu dans les trois extraits de l'évangile de Jean, le prologue, le baptême et le discours des adieux, nous avons trois passages qui mettent en relation le Père, le Fils et l'Esprit. Si ces trois personnes sont distinctes, elles nous sont présentées dans une grande unité. Alors, pourquoi ai-je voulu parler de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit unis? J'ai révélé quatre raisons de parler de la Trinité. Premièrement, elle permet de mieux comprendre la personne de Christ. Elle nous dit que le Christ n'est pas un modèle à imiter, mais que le visage de Dieu, c'est le visage de Dieu devenu proche, de Dieu amour et grâce pour tous les hommes. C'est Dieu. Deuxième raison, elle est importante pour le dialogue entre les religions. Elle nous permet de formuler notre image de Dieu, d'un Dieu équilibré et stable, reposant sur trois bases distinctes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est venu prendre une condition humaine pour toucher au plus près les hommes. Il a révélé les desseins de Dieu pour l'humanité et il est retourné au Père en nous laissant pour nous accompagner le Saint-Esprit. Troisième raison, cette Trinité est importante pour la prière. Elle nous assure en effet que Dieu est un Dieu de communication et que nous pouvons lui dire « tu ». On peut lui dire « papa » comme on l'a dit tout à l'heure, par l'Esprit promis par Jésus-Christ. Et quatrième raison, c'est que la Trinité est un modèle pour les relations humaines. C'est pour ça qu'au milieu de tout ça, il y a l'amour que nous a laissé Jésus, l'amour agapé. Elle nous propose un exemple de relation où la dépendance et l'égalité s'équilibrent. Elle peut nous aider à penser et vivre les relations humaines. Parmi les évangiles, celui de Jean est celui qui pose le plus clairement la question trinitaire. Nous nous sommes arrêtés sur quelques passages clés. Le premier passage, c'est le prologue. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ce passage ne nomme pas ouvertement l'Esprit, mais il pose la question de la relation entre le Père et la parole, qui est Jésus-Christ. À lui seul, ce prologue nous oblige à considérer la réalité de la Trinité. Le deuxième passage parlait du baptême, avec Jean-Baptiste, qui baptise d'eau Jésus. Jésus reçoit l'Esprit, mais il est aussi désigné comme celui qui donne l'Esprit Saint. Il commence alors son ministère public, dans le vocabulaire de l'Évangile, il commence à manifester la gloire du Père. Troisième passage avec cette trahison de Judas et ce discours de Jésus, le discours des adieux. Jésus évoque à la fois sa relation au Père et l'envoi du Saint-Esprit. Au moment où il parle de sa mort, il affirme son union très étroite avec le Père. « Je suis dans le Père et le Père est en moi », peut-on lire au verset 1 du chapitre 14 de Jean. Et il promet aux disciples que l'Esprit viendra les soutenir, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Après la résurrection, Jésus rencontre encore les disciples et les envoie en mission de la part du Père et leur communique l'Esprit. Il est dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » En cette période estivale, que le Seigneur vous bénisse, que la paix et l'amour du Christ vous équipent et que l'Esprit Saint vous guide sur votre route et sur la compréhension de la parole. Amen.